saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. 8 propositions artistiques, un spectacle déambulatoire dans les rues du Centre-Sud, 7 spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en webdiffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho au titre qui résume la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
Polo & Pan, tournée Cyclorama, le 11 décembre à la Place Belle. Un soir seulement, à Laval. Billets disponibles maintenant sur evenco.ca. Polo & Pan, tournée Cyclorama.
Choc vous invite à participer au grand retour du Festival Noël dans le Parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie-Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio Radio, À la Claire Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com.
Artistes, musiciens et musiciennes, les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Silidor de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.silidor.com.
Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez Choc.ca.
Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome.
J'adore quand l'escroc me sous-estime. Ça me donne mon fixe quotidien d'adrénaline. Et l'escroc se dit, pas de stress, c'est juste FIDES. Rien de nouveau dans son nez, je crois qu'elle s'arrange avec les restes. On va la trouver évaporée dans le fond de chez Laga. Je crois qu'elle est perdue dans son vibe à rêver de chez Aga. On pourrait peut-être la modifier pour une modique somme. Passer par la fête, espérer qu'elle s'y fonde. Non, monsieur, non, monsieur. N'essaie même pas, je ne rendais compte qu'à Dieu. Oui, depuis des siècles que l'escroc chasse nos petites roses roses. Autour de nos pétales, ça jase, oh oui, ça cause, cause. L'autre jour, j'ai trouvé dans ma poche quelques dollars. J'ai encore eu des envies de gros char et de caviar. Ouh, l'escroc se dit que la job est done. Qui peut me garder par le vice, me tenir par les cornes. Je descends dans la rue, mes clés comme des épées. Je descends dans la rue, les anges à mes côtés. Je sais qui veut la terre, les aides, son nectar et son fruit. Sauf quand qu'il veut me posséder, mon regard fuit.
Besoin de ma lumière pour colmater ses failles. Pour le temps qu'il me reste, check on fly. Pour le temps qu'il me reste, check on fly. Pour le temps qu'il me reste, check on fly.
D'être une icône dans les yeux d'un gros gros Corleone. Ça l'aurait peut-être mieux avec plus de cash et bien gonflé de silicone. Elle se marre tranquillement dans les sables mouvants. Si elle se donne tout entière, l'aimera-t-il plus souvent de la coke, des hommes jusque dans la douche. L'escroc se dévoile couche par couche. Eh, colle, colle, allô. Escroc toujours gros tempo. Tisse, tisse le réseau, cadeau compliment au galop. Appelle les chéris pour l'instant les salauds. Colle, 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 allô. De haut en bas dans les montagnes de ses obsessions.
Besoin de ma lumière pour colmater ses failles. Pour le temps qu'il me reste, check on fly.
Allô, allô! Alors, on se retrouve aujourd'hui en ce 29 novembre avec Héloïse, une émission un peu particulière, puisque Dans les airs prend un nouveau tournant. Héloïse et moi, on reprend la barre du bateau de Dans les airs.
Mais oui, on a des petites nouvelles.
Oui, on a des petites nouvelles et puis on était déjà là depuis le début. Et puis le but quand on s'est rencontrés tous ensemble, c'était que l'émission prenne un nouveau tournant, que ça soit géré par nous, les bénévoles. Donc nous voilà à la barre de ce bateau. Puis on retrouvera Laurence, puis Estelle, on l'espère, dans nos émissions. D'ailleurs, Laurence sera là aujourd'hui pour nous parler d'une représentation de drag king. Puis aujourd'hui, on est avec Juliette.
Allô.
Ça va?
Ça va bien et toi?
Oui, ça va, c'est une bonne semaine.
Oui, je suis contente d'être là avec toi.
Ouais. C'est vrai que c'est un peu vide le studio aujourd'hui, mais très intimiste. Toi, tu nous parleras d'une poupée en chocolat, un ouvrage d'Amandine Gay.
Oh oui. Ouais. Son essai sur l'adoption transraciale.
Tout à fait. Puis moi, je vous parlerai d'un concert que je suis allée voir ce week-end, samedi, qui est un groupe d'origine autochtone qui s'appelle The Hallucination. Et puis Laurence, comme je l'ai dit, nous parlera de Rock Beer, le documentaire qui est présenté à l'Espace Libre avec Mélodie Noël Rousseau, avec la compagnie Pleurer dans douche. Donc peut-être que Juliette, on peut commencer avec toi.
Oui, ouais. C'est bon, je t'en parle, ça y est,
ouais.
C'est le moment.
Ouais, c'est le moment, vas-y, je suis prête.
Dimanche, il y a quelques semaines, par un bon dimanche matin, tu sais, je me suis réveillée tranquillement et je me suis dit, allons apprendre des choses. Et donc, je suis allée à une discussion entre Amandine Gay et son éditrice et amie Stéphane Martelly pour la sortie de l'essai d'Amandine Gay, Une poupée en chocolat. C'était tellement passionnant que j'ai tanné toute l'équipe de Dans les airs pour pouvoir en parler ici, donc je suis vraiment contente d'en parler aujourd'hui. Une poupée en chocolat, ça traite de l'adoption transraciale et transnationale, donc en des mots plus faciles, des parents blancs qui vont dans des pays du Sud, donc des pays plus pauvres, pour adopter un enfant qui sera donc pas blanc. Amandine Gay, elle est elle-même noire, née sous X et adoptée, et elle traite de ce sujet avec une perspective afroféministe, c'est-à-dire qu'elle replace le phénomène comme un prolongement des dynamiques coloniales. C'est assez difficile de résumer cet essai en quelques phrases, mais je vous invite vraiment à le lire. Et c'est passionnant parce que, pour une fois, c'est la voix d'une personne adoptée qu'on entend. Amandine Gay nous offre un autre discours que l'habituel comptine du « adopter un enfant, c'est lui donner une chance d'avoir une vie meilleure ». Elle parle de la violence d'être déracinée, de ne pas connaître ses antécédents médicaux, de ne ressembler physiquement à personne dans sa famille, de ne pas savoir à quelle communauté on appartient. Comme elle l'exprime très bien, est-ce que toi, Margot, tu peux imaginer ce que ça fait d'être enlevé de ton pays natal sans que personne n'ait demandé ton avis, pour être mis dans une famille que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, où le climat, la nourriture, la langue sont différents, et qu'en plus, on te demande d'appeler tous ces gens que tu connais pas, papa et maman? C'est vraiment d'une violence folle. Donc ce n'est pas un essai qui milite contre l'adoption, mais Amandine Gay s'efforce de jeter une nouvelle lumière sur cette pratique, à partir de son vécu et de son point de vue, et de proposer peut-être des manières de le faire qui, cette fois, respecteraient vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mmh. Ça fait écho, je sais pas si tu as vu Une histoire à soi, du coup.
Non, je l'ai pas vu, mais c'est le documentaire tout à fait qu'elle a réalisé. Tu l'as vu?
Je l'ai vu, ouais. Il était présenté au RIDM la semaine dernière. Puis ça parle justement de cette adoption-là. Puis c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, elle propose des solutions, ou du moins je trouve qu'elle amène une nouvelle perspective dans ce sens où je me rappelle, il y a une protagoniste dans le documentaire, et ils sont cinq enfants adoptés. Puis il y a une protagoniste qui dit qu'en fait, au lieu d'enlever les enfants de ces pays-là, ce serait plus intéressant d'aller militer ou d'aller changer les choses justement dans les pays pour que les enfants vivent dans de meilleures conditions et puis ne soient pas arrachés à leur culture, parce qu'effectivement c'est une problématique. Moi, je m'étais pas rendu compte, et puis c'est nécessaire d'avoir ce genre de choses.
Mais c'est ça, vraiment, c'est un dialogue qu'on n'a pas habituellement, et là je trouve ça super intéressant, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, d'y penser. Et elle parle souvent du fait que l'adoption transnationale, ça coûte vraiment des fortunes, et elle dit, mais plutôt que de payer autant pour aller adopter un enfant dans un autre pays, pourquoi est-ce qu'on parraine pas sur place une famille pauvre ou un enfant pauvre? Pourquoi est-ce qu'on paye pas les frais de scolarité, etc.? Donc oui, elle n'est pas juste en train de condamner ce qui se passe actuellement, mais de proposer des nouvelles manières de le faire qui peuvent être plus éthiques et profiter vraiment à l'enfant. Et en plus d'un fond passionnant, Amandine Gay a choisi de développer une forme tout à fait novatrice pour soutenir son écriture. Si je reprends l'expression de Stéphane Martelly, donc l'éditrice, Amandine Gall propose ici un récit autobiographique dont les trous, les lacunes, propres à l'adoption, sont comblés par l'analyse politique. Elle parvient à tisser avec beaucoup de cohérence et de fluidité une narration qui alterne entre les moments où elle se raconte en tant qu'adoptée et les moments où elle développe son analyse politique et afroféministe de l'adoption. Ça alterne vraiment entre son récit et une analyse politique. Et une autre surprise dans la forme de son essai, c'est qu'Amandine Gay y utilise le féminin universel. C'est-à-dire que là où d'habitude, pour parler d'un groupe englobant des personnes de plusieurs genres, on utiliserait le masculin, Amandine Gay utilise le féminin. Elle écrit par exemple les adoptés, E-E-S, pour parler de toutes les personnes adoptées, ou les lectrices, pour parler de toutes les personnes qui vont lire le livre, hommes et femmes. C'est nouveau dans l'écriture francophone, et elle explique cela par son envie de faire comprendre, et surtout faire ressentir au lectorat, ce que ça fait d'avoir appris depuis l'enfance que le masculin l'emporte sur le féminin, comme on l'a vu autant de fois quand on était petit à l'école. Et donc, en proposant la norme opposée, elle nous démontre le poids de la norme actuelle.
Et quel est l'intérêt justement de démontrer ce poids-là dans un récit qui traite de l'adoption ? Est-ce qu'elle l'explique ? C'est un double militantisme ?
Elle l'explique pas forcément. Je pense pas que ce soit vraiment lié au sujet de l'adoption, mais je pense que c'est une autre manière de faire passer ses convictions féministes. Et elle parlait du fait de déplacer l'universel. Donc c'est-à-dire que plutôt qu'on mette l'universel sur le genre masculin, on le met sur le genre féminin. Et je sais que moi, quand je lisais, en lisant par exemple les adoptés EES, je me représentais dans ma tête que des adoptés femmes, même si je savais qu'elles englobaient tout le monde. Mais de lire ça, ça a changé ma représentation dans ma tête, et du coup, ça me permettait de me rendre compte à quel point la règle du masculin universel a aussi changé mes représentations et a fondé tout un imaginaire dans ma tête basé sur le masculin. Donc, dans l'édition française, il y a une note de lecture qui explique justement cette notion-là du féminin universel. Mais dans l'édition québécoise, elle a été oubliée. Et je crois que c'était pas une volonté, elle a juste été oubliée et il s'avérait qu'elle était pas là. Ce qui est finalement, j'en parlais avec Stéphane Martelly, l'éditrice, et elle disait finalement c'est un peu une bonne nouvelle que ce soit possible de publier un essai au féminin universel sans qu'on ait besoin de se justifier ou d'expliquer pourquoi. Et donc, comme j'en parle, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Martelly, l'éditrice. On a discuté ensemble par Zoom. Et elle m'a expliqué un petit peu, elle m'a donné plus d'explications sur ce qui l'a poussée à créer cette collection. On va l'écouter parler.
Mon intention, ça a été de créer une collection où des femmes noires, des jeunes femmes noires, des autrices qui n'avaient jamais publié, puissent publier leurs livres. Et de monter une collection basée sur cette seule entreprise que de faire exister la voix des femmes noires au Québec en littérature.
Donc le but de Stéphane Martelly, c'était de créer un espace déblayé des obstacles pour donner la place aux femmes noires de s'exprimer. Et il s'agissait surtout de leur donner un espace où elles n'ont pas forcément à parler de l'oppression ou à y répondre. Stéphane Martelly voulait créer une zone de liberté artistique qui n'est pas subordonnée à la domination, où elles peuvent aller plus loin. Parce que finalement, écrire sur l'oppression, même en réponse, en réaction, en opposition, c'est quand même mettre l'oppression au centre des projecteurs. Et Martial leur donne l'espace de s'exprimer, et je cite Stéphane, pour que l'horizon de ces voix-là soit toujours elle-même.
Je pense que peut-être il faudrait insister sur l'aspect d'une voix émancipée, vraiment. Ce sont des voix qui sont émancipées en partie parce que le processus créatif est un processus qui ne s'effectue pas en dialogue ou en réplique vis-à-vis des discours de la société dominante, mais vraiment centré sur la souveraineté de ses sujettes, si on peut dire. Donc il y a vraiment un élan très fort dans cette direction-là.
Donc pour cette collection, Stéphane Martelly, elle propose un travail autour de la création tout à fait singulier, et possible aussi grâce à la confiance que lui portent les éditions Remue Ménage. Peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais la collection Martial, c'est une nouvelle collection au sein des éditions Remue Ménage. Et donc, elle travaille dans le secret, Stéphane Martelly est l'autrice, en équipe, et le texte n'est présenté au reste de l'équipe de l'édition seulement une fois qu'il est achevé. Et elle souhaite ainsi accompagner l'autrice du début à la fin de son processus de création.
Les autrices qui acceptent de travailler ou de publier dans les Martiales, ce sont vraiment des personnes qui ont accepté de se dédier à un travail de création pendant souvent plusieurs années. Et qui acceptent de faire face à la difficulté de ce travail en soi et à la difficulté de ce travail dans le contexte où nous sommes. Et donc acceptent de se remettre en question, acceptent de retravailler. Ce travail est vraiment très exigeant. Donc je ne reçois pas vraiment de manuscrits, si vous voulez. j'accompagne la naissance de la maîtrise.
Pour conclure, je vous invite et je t'invite, Margot, vraiment à lire l'essai d'Amandine Gay, Une poupée en chocolat. Suivant vos opinions politiques, peut-être que vous allez trouver ça génial ou au contraire que vous ne serez pas du tout d'accord. Mais dans tous les cas, c'est une lecture qui permet d'ouvrir une réflexion nécessaire en tant qu'individu et en tant que société sur l'adoption et sur la manière dont nos cultures peuvent perpétuer la domination coloniale dans des espaces où on ne l'avait pas vraiment pensé. Et si le sujet vous intéresse, elle a aussi réalisé un documentaire, donc comme tu en parlais, intitulé « Une histoire à soi », où elle donne la parole à 5 personnes adoptées transnationales. Et elle propose aussi sur sa chaîne YouTube beaucoup de conférences ou d'interviews en lien avec son travail qui sont donc disponibles gratuitement. Et pour en savoir plus sur la collection Martial, vous pouvez en lire les deux premiers ouvrages, donc « Les Enragés » de Valérie Plat et « Chronique frigide du modèle vivant » de Pascal Bernardin. Et moi, je veux juste terminer en remerciant Stéphane Martelly pour son temps, pour l'entrevue qu'on a eue ensemble.
Mm-hmm. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu sais pourquoi elle l'a nommé « Une poupée en chocolat », son ouvrage ?
Non, je ne sais pas.
Non, c'est marrant. Puis elle a aussi réalisé un autre documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle « Ouvrir la voie ». Avec des femmes racisées en France, où elle met l'accent justement sur toutes les oppressions qu'on peut vivre en tant que personne racisée et doublement en tant que femme. Puis dans ce documentaire-là, il y a des petites parties qui sont disponibles sur YouTube aussi. Ça, je trouve ça hyper intéressant justement de mettre des petites parties de son travail en accès libre. Puis justement, dans un extrait du documentaire, il y a une personne, une femme noire racisée du coup, qui explique que quand elle était petite, elle a toujours eu des poupées blanches, puis qu'elle aurait beaucoup aimé avoir une poupée noire. Puis ça m'a fait penser à ça, à cet extrait-là de Ouvrir la voie.
Mais ce qui a vraiment rassemblé ces trois œuvres-là d'Amandine Gay, donc les deux documentaires et cet essai, c'est que à chaque fois le propos est centré sur la parole des personnes concernées, et ça, je pense que c'est vraiment important, et c'est une tournure qui est en train de prendre en ce moment les milieux militants, je trouve, et je pense que c'est vraiment essentiel de donner la parole à ceux qui vivent les oppressions en premier. Ceux et celles.
Puis je trouve que ce qui est aussi intéressant dans le travail d'Amandine Gay, c'est qu'elle essaye d'être la plus indépendante possible. C'est-à-dire que là, avec cet ouvrage-là, et puis j'avais regardé une interview d'Ouvrir la voie, où elle expliquait qu'elle avait essayé d'être la plus indépendante possible pour la diffusion et pour la production, mais que ça avait été très compliqué parce que c'est dur de s'imposer en tant que femme, et doublement avec une double oppression qui est sa condition de femme racisée. Puis c'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'elle se bat et qu'elle essaye de s'imposer tant bien que mal, quoi.
Mais tout à fait. Et vraiment, la discussion était vraiment passionnante et elle parlait avec tant de passion et tant d'intérêt de son travail. Et en plus, elle était drôle, ce qui fait qu'on a vraiment passé un super moment tous ensemble, parce qu'il y a vraiment majoritairement des femmes. Et c'était vraiment super. Elle est très admirable, oui.
Peut-être qu'on peut on peut s'écouter une petite musique, Héloïse. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Mais certainement, là, je me suis dit, on parlait de féminisme, on parlait de tellement de belles choses qui ont rapport avec la femme. Fait que pourquoi pas célébrer la femme?
Ouais.
Alors, on va aller écouter Straight Up de Naya Ali, qui milite pour le féminisme tout en musique.
Génial.
Money don't make real money. Old money, I ain't got any. So I made my way. Yeah, I'm mad ass, that's my fee. I'm a part of the music. Let me talk my shit. When I flex like this, yeah. Put a beat up, yeah, yeah. I've been dealing with these feelings on a combo, yeah, yeah. Smell of fake pussy niggas, stop your capping, yeah, yeah. So much fake, fake love, price of fame, ain't fair. Never real like this. It's the picture I paint. It looks sweet, but it ain't. I put my blood, sweat, and tears. I find my source in the rain. I wear my heart in this game. These snakes don't know that I pray. I can't share all my mistakes, all my mistakes. My nigga pulled up in the truck like this. I ain't this one, that one. Where you at? Go shut up. Go shut up. Niggas try to lead me astray. I get it, these niggas are scared of the light that I'm giving is gold. I come from the heart and I only forgot, and I'm never gonna lie to my soul. My niggas are stacking and some of the violent, I pray that they keep it on froze. Yo, we can set it up like this. We ain't supposed to make it out the park like this. Run it to the port, then the dock that bitch. Feel it, don't talk to my boss like this. What $100 is? You $100 biz. Put a crown on the bitch.
Voilà, on se retrouve après cette petite pause musicale. Puis moi, j'avais envie de vous parler d'un concert où je suis allée ce week-end, samedi soir, à la SAT. C'était une journée avec un mélange de militantisme et de culture, puisque l'après-midi, il y avait une manifestation en solidarité avec les Wet'suwet'en, qui est une population autochtone. Puis la manifestation visait à lutter contre une construction de pipeline sur leur territoire. Puis le soir, ça faisait un peu, enfin, très résonance justement avec cette lutte-là, parce que je suis allée voir un groupe qui est d'origine autochtone. Leur projet s'appelle The Hallucination. C'est créé par deux personnes autochtones, donc Bear Witness et Tim Toolman, du groupe A Tribe Called. Bon, mon accent anglais est pas terrible.
A Tribe Called,
oui.
C'est ça.
Puis le projet vient d'un artiste, poète et activiste qui s'appelle John Trudell. Qui décrit en fait la communauté autochtone et le fait d'allier la musique avec des valeurs autochtones. Puis du coup, le but, c'est de vraiment valoriser la culture autochtone à travers la musique. Donc le groupe, il s'est créé en 2010. Et puis c'est un mélange en fait de chants traditionnels autochtones avec de la musique électronique. Puis on peut entendre dans leur musique des sonorités issues du dubstep, du rap, du reggae et du hip-hop. Mmh. Puis sur scène, c'était assez incroyable parce que du coup, il y avait toutes ces sonorités qui étaient mélangées. Puis il y avait aussi des personnes autochtones costumées sur scène qui dansaient. Puis il y avait aussi
en habit traditionnel.
Mmh. C'était assez fort. Mais en même temps, je me suis un peu questionnée parce que ça faisait résonance avec la manifestation. Mais au niveau éthique, je me suis dit mince. Du coup, je me retrouve dans un concert. Puis j'ai payé pour voir ça. Et puis je me suis dit, est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que, je sais pas, j'avais l'impression un peu que je payais pour voir un spectacle où finalement, au niveau éthique, ça me dérange.
Mais
sais
c'était
pas.
Quoi ton mal? Dans le sens que tu sentais que tu célébrais après ouais. avoir comme ouais. manifesté pour ouais. des injustices?
Comme si j'avais payé pour voir.
Mais en même temps, quand c'est un groupe qui est mené
ouais, c'est
par
ce que je me suis dit après.
Des autochtones par leur nation, c'est pas mm-hmm. C'est pas une appropriation, par exemple, d'un groupe de personnes blanches qui vont qui ont engagé des danseurs mm-hmm. Autochtones en habits traditionnels pour faire une performance. C'est vraiment un groupe qui est mené par des autochtones. Ouais. Fait que là, je me dis, tu payes pour faire rayonner en même temps une culture autochtone qui a sa place sur les scènes québécoises.
C'est vrai.
Non, moi, mais je le vois comme ça.
Carrément, t'sais. Mais je trouvais ça intéressant justement de vous en parler de mon questionnement. Mais t'as tout à fait raison. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Mais en même temps, c'était le moment était incroyable. Ouais. Et puis... ouais, c'était important, mais je pense que t'as raison, c'est important
mais
de valoriser.
Mais en fait, c'est moi, comment je le vois, c'est comment c'est amené. Est-ce que c'est vraiment amené par les peuples eux-mêmes, par les nations qui portent leur propre projet, ou est-ce que c'est des gens qui vont prendre avantage de l'espèce d'engouement qu'on a en ce moment de qu'est-ce qui se passe avec les nations autochtones, puis qu'est-ce qui se passe avec la culture autochtone pour vendre des billets de spectacle, puis c'est pas l'argent, puis le rayonnement va pas nécessairement aller au peuple autochtone, aux nations autochtones. Là, ça serait là le malaise, mais j'ai pas assisté au spectacle, c'est difficile de me prononcer, mais...
Mais je pense qu'il y a une différence d'intention, mais ça rejoint ce que tu dis, entre est-ce qu'on est là pour faire perpétuer la culture autochtone et continuer à la faire vivre, ou est-ce qu'on est là pour se divertir et regarder des gens danser qui ont été un peu comme dans un zoo ou...
Ouais, c'est ça.
Là, comme tu dis, c'est vraiment... dans le but de célébrer cette culture-là.
Oui, non? Parce qu'elle a sa place, puis elle devrait rayonner, elle devrait rayonner partout. Tu sais,
c'est... Puis elle a rayonné en plus. Ouais. Elle a rayonné. Ouais.
Est-ce que tu as envie
de l'écouter?
Ouais.
Oui, j'aimerais beaucoup. Héloïse, est-ce que tu peux nous faire écouter The Hallucination?
Mais avec plaisir.
On t'entend pas trop, Héloïse. Hein? Le son de ton micro est un peu bas.
Je suis juste ici.
Elle parle tout proche, elle est en chuchotement.
Elle chuchote, oui. Elle nous chuchote.
Elle est concentrée, c'est sa première régie, mais elle fait vraiment bien ça. Félicitations.
Ouais, hein. On travaille fort, c'est une belle émission.
Ouais.
Alors, on va pouvoir écouter Hallucination, et voilà. That's why you want it.
Eh bien, on se retrouve... Ah, le son a augmenté depuis cette petite pause musicale, on s'entend mieux. alors, hors onde, Estelle nous a appris une petite anecdote.
C'est des oui-dire, mais on lui fait confiance.
Ouais,
une
bonne surface d'habitude. On lui fait confiance. Elle disait que, justement, le groupe avait dit aux personnes blanches d'arrêter de venir au concert avec des coiffes autochtones.
Oui, dans le temps qui s'appelait A Tribe Called Red, avant qu'il s'appelle The Hallucination. ils avaient dû mentionner, là, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de... Ça fait écho au malaise que tu ressentais, ouais. Dans le sens que c'est pas pouvez-vous arrêter de venir, mais pouvez-vous arrêter de venir en vous appropriant c'est nos ça. Costumes, comme si c'était des costumes d'Halloween, finalement. Mm-hmm. C'est quand même fou. Je sais pas, ça fait combien de temps? Estelle, fais-nous des signes avec tes mains. À peu près... à peu près 6 ans.
6 ans ou 6 mois?
D'après moi, 6 ans, à peu près. Mais tu sais, comme on n'est pas... Ça fait pas si longtemps que ça, donc voilà.
Bien sûr. Et toi, alors, Laurence, tu es allée à l'Espace Libre voir le spectacle Rock Bière, le documentaire. Est-ce que
oui,
tu peux nous en parler?
Oui, ben, je suis allée à la toute première. Non, ben oui, c'était la première. C'était le lendemain de la première, bref, le 28 novembre. Donc, Rock Bière, c'est une pièce de théâtre documentaire qui est portée par Mélodie Noël-Rousseau, a.k.a. Rock Bière, son personnage de drag king, et mise en scène par Geneviève Labelle, qui a aussi un personnage de drag king qui s'appelle Hervé Metal. Donc, ensemble, Rock Bière et Hervé Metal font les 400 coups. Et puis, donc, ils ont porté, c'est ça, cette pièce documentaire au Théâtre L'Espace Libre qui va jouer jusqu'au 4 décembre. Il reste encore de la place. Moi, je vous conseille fortement d'y aller. Honnêtement, c'était tellement une expérience agréable. C'est une expérience... on est dans un spectacle, mais on est aussi dans un... Tu sais, c'est comme on se sent au cabaret. Tu peux clapper des mains, siffler, danser. Ben, danser, je me suis pas levée pour danser. Il y avait personne qui s'est levée pour danser, mais ça aurait pu. Rock Bière nous livre vraiment une performance de drag king. Donc... il passe de Guns N' Roses à Bon Jovi, il y a des effets spéciaux, de la fumée, c'est wow. C'est vraiment pas une pièce de théâtre classique assise. Les gens prennent des stories, ils prennent des stories Instagram pour les... Tu sais, on se sent pas comme dans un espèce de lieu où est-ce que tu dois éteindre ton téléphone, être silencieux, tu sais, t'es invité à clapper puis à participer. Et au travers de ça, c'est énormément de changements de costumes, être drag king, comme être drag queen d'ailleurs. Donc, pour ceux qui savent pas, un drag king, c'est donc un personnage au caractère... ou très masculin et où le stéréotype masculin est exacerbé de façon exponentielle, puis c'est typiquement joué par des femmes qui s'identifient, par des personnes qui s'identifient comme femmes, mais ça pourrait aussi bien être joué honnêtement par un homme, au même titre qu'une drag queen pourrait aussi être performée par une femme. Le personnage veut juste que ce soit en fait des traits exacerbé, là, vraiment, là, on joue avec les stéréotypes masculins, on joue avec les stéréotypes féminins. Donc, Rock Bière va aller dans une panoplie, c'est tellement bon, dans une panoplie de vieux classiques rock québécois, international. Il y a même un petit clin d'œil à Éric Lapointe qui a été québéquisme cancellé. Pour ses agissements. Donc, il y a comme un petit 10 secondes de n'importe quoi d'Éric Lapointe jusqu'à temps qu'il y ait la grosse lumière qui allume, cancel. Honnêtement, c'est teinté d'humour du début à la fin, mais c'est une pièce de théâtre documentaire, comme je le disais. Donc, on apprend aussi énormément sur l'histoire du drag king, sur les embûches auxquelles font face les drag kings, qui sont très peu nombreux à Montréal. On en compte une dizaine à peine à Montréal, alors qu'il y a au-dessus de 80, proche 100 drag queens. Donc, c'est encore très marginal dans un monde qui est déjà marginalisé à la base. Donc, c'est des marginalisés. Et puis, donc, c'est ça, ils racontent toute l'histoire, comment ça a débuté, pourquoi. Je vous invite vraiment à y aller parce que j'ai pas envie de tout vous divulgâcher, mais on en apprend beaucoup, mais ça, t'as pas l'impression que t'assistes à un documentaire. Tu sais, c'est tout ça se passe quand Rock Bière va faire ses changements de costume. Ensuite, la partie documentaire est coupée par des chansons qui sont performées. Tout est en lip-sync, donc c'est pas Rock Bière qui chante évidemment. Et puis donc voilà. Et puis, quoi rajouter d'autre? C'est juste vraiment une belle performance. Donc, jusqu'au 4 décembre, à l'Espace Libre, c'est ludique, on en apprend beaucoup, mais on a vraiment beaucoup de plaisir aussi.
C'est ludique, et puis, je trouve qu'à la fois, c'est hyper important d'avoir ce genre de représentation dans les théâtres, mm-hmm. puisque c'est le lieu par excellence où, où on ne voit pas forcément les opprimés ou les marginalisés.
C'est ça.
Puis je sais que l'Espace Libre, justement, essaye dans sa programmation d'avoir des shows oui, un petit peu différents chaque saison.
Ouais.
Ouais.
Puis ce qui est bien, c'est qu'on en apprend. Moi, ce qui m'a impressionnée, puis tu sais, je veux dire, mon background, je suis une femme cisgenre, blanche, hétérosexuelle. Je veux dire, je suis la moins marginalisée des marginalisées, là. Puis, mais je reste quand même assez sensible aux enjeux. Puis, j'en ai appris énormément sur comment ça fonctionne, le monde du drag king, dans le sens que c'est tellement comme vu comme un art moins noble, j'ai l'impression, puis c'est ça qu'on apprend aussi dans la pièce, que le drag queen qui commence à vraiment retrouver ses lettres de noblesse, puis ça a été beaucoup de travail parce que ça l'a pas toujours été, là. Mais là, on voit des shows comme RuPaul's Drag Race, puis des, mm-hmm. tu sais, des shows à grande écoute qui sont faits pour le grand public, donc ça reprend ses lettres de noblesse, mais ça laisse pas plus de place au drag king qui doit vraiment se tailler une place dans le monde du drag, dans les cabarets comme chez Mado. Ça a pris du temps avant qu'elle décide de dire « Ok, parfait, on va accepter les drag kings dans nos soirées de performance » parce que ça, elle avait l'impression que ça allait attirer personne, aucun public. Comme je le disais, il y a seulement 10, autour de 10 drag kings à Montréal. Puis, même dans le milieu qui est en soi marginalisé, il y a quand même des petites pointes qui sont lancées, tu sais, comme si c'était moins valorisé que le drag queen. Donc, ça reste super intéressant de se dire, mais mon Dieu, tu sais, moi, je sais pas si je suis complètement naïve, là, mais je me disais, quand t'es entouré de personnes qui ont vécu, tu sais, les conséquences des stéréotypes qui ont été marginalisés, puis là, ça m'a comme choquée de savoir que même dans ce milieu-là, tu sais, il y avait de la marginalisation, alors que c'est complètement niaisé. Je veux dire, tu peux être marginalisé puis quand même être pas fin, là. Mais donc c'est là-dessus que je terminerai ma chronique, mais tout ça pour dire que j'en ai beaucoup appris sur ce milieu-là que je ne connaissais pas. Puis d'ailleurs, mention spéciale le 13 décembre, si vous êtes comme moi, ça m'a tellement fascinée. J'ai dit à Estelle, ça y est, je me lance, je pars mon personnage, je veux devenir drag king, je veux sortir tout ce côté-là masculin à l'intérieur de moi, je veux jouer l'homme sur scène, l'homme super masculin. Donc, elles m'ont dit, Geneviève et Mélodie, que le 13 décembre, au Cabaret Mado, il va y avoir une soirée d'initiation au drag king. Elles vont faire les maquillages et tout. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, développer son personnage, vous pouvez y aller en tant que spectateur. J'ai pas encore décidé si ça sera ma première performance, mais je vais définitivement y aller en tant que spectatrice pour assister au balbutiement de certains drag kings. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, la communauté va grandir et grandir grâce à ces deux femmes exceptionnelles, Mélodie et Geneviève, qui portent la cause du drag king de peine et de misère au bout de leurs bras, donc c'est ça.
On peut aussi les retrouver au café Reine Garçon, elles tiennent toutes les deux un petit café.
Oui, juste à côté avant, elles tiennent un superbe café.
T'y allais?
Ouais, j'y allais, c'est vraiment, vraiment chouette comme place, trop mignon.
Puis leur compagnie aussi s'appelle Pleurer dans douche, donc peut-être qu'on peut aller aussi retrouver leur travail sur leur site.
Ouais, puis est-ce que vous avez envie? J'ai complété un petit reportage sur eux. Plaisir. Donc peut-être qu'on peut l'écouter pour... j'en ai dit beaucoup déjà, mais on va quand même...
Moi j'ai une question, Laurence, je ne sais pas si tu sais ou pas, mais est-ce que tu sais pourquoi la communauté des drag kings est plus marginalisée que celle des drag queens? Est-ce que c'est parce que c'est plus récent?
Je sais vraiment pas. C'est pas plus récent. C'est pas plus récent. Écoute, je veux pas lancer non plus un débat puis me faire envoyer des messages sur Facebook, mais j'ai peut-être l'impression que ça a un lien avec le fait que peut-être que c'est des femmes, typiquement, qui jouent des hommes, puis les femmes restent encore peut-être le sexe, tu sais, le sexe faible, dans le sens que les hommes qui jouent des drag queen ont peut-être eu plus de d'opportunités, puis de se lancer, puis ils ont tellement... Ça reste que, tu sais, même les femmes qui jouent les drag queens se font lancer des commentaires, là. On l'entendait dans la pièce, il y en a qui se sont fait dire « No vaginas in here », tu sais. c'est ça. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que il y a eu plus de... je sais pas, de chance. Puis mais c'est qu'une hypothèse, pas vrai. Là, c'est vraiment basé sur absolument rien.
Puis c'est considéré comme moins extravagant aussi. Elles le disent, elles le disaient quand je les ai rencontrées, que pour elles, ben, les gens leur disaient que c'était moins extravagant, qu'ils voyaient pas le travail qu'il y avait derrière. Mais au final, il y a quand même une heure et demie de maquillage, quoi.
Ouais, c'est, ouais, ouais. Mais c'est ça, moins extravagant, alors que c'est peut-être parce que c'est encore moins connu. Peut-être ouais. qu'il y a un gros travail à faire pour que ça devienne connu, puis peut-être que c'est ça, c'est vu comme moins noble à cause qu'il n'y a pas de série, grand public, mm-hmm. il n'y a pas de... Donc, c'est quand même un art qui est, tu sais, qui est peut-être moins vu comme une performance avec du travail solide derrière. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, mm-hmm. C'est une bonne question, puis faudrait leur poser. Le 13 décembre au Cabaret Mado, oui. c'est son nom. On ira leur demander, mais est-ce qu'on écoute le reportage?
Oui, on écoute.
Allons-y. On a un petit 5 minutes de reportage.
Ben oui, mais en fait, on va pouvoir se laisser là-dessus, en fait, se dire au revoir, clore l'émission déjà, puis se laisser sur le reportage si on veut.
Ben oui, absolument.
Merci d'avoir été là, c'était vraiment super.
Hey, merci. Félicitations merci. Margot et Elise pour votre première animation à l'émission, c'était vraiment bien.
Merci d'avoir participé, c'était super de vous avoir.
Merci.
Alors, on se laisse sur le reportage.
Vous écoutez les nouvelles de choc.ca.
Rockdale, le documentaire, c'est un spectacle de théâtre documentaire, mais aussi un spectacle de cabaret drag, King. Et on découvre un peu ce milieu-là à travers Roquebière, qui fait son ascension dans le milieu.
Roquebière, c'est une pièce de théâtre documentaire teintée d'humour qui aborde la sous-représentation des drag kings sur la scène culturelle québécoise. Un drag king est un personnage de scène au cliché masculin exubérant, normalement performé par une personne qui s'identifie comme femme, à l'instar des drag queens.
Ah! Yeah! La première fois que j'ai vu Roquebière performer, c'était lors de ses auditions à Drag-moi. Et ce soir-là, je me souviens, je m'étais dit trois choses. Premièrement, oh mon Dieu.
Roquebière, c'est un mononcle, un rocker au cœur tendre, qui a une moto, il y a une décapotable. T'sais, il y a plein de chars et de trucs motorisés. Il en prend soin, là, il va les chromer là, toute l'après-midi. Là. C'est, dans mon imaginaire, c'est vraiment le mononcle québécois qui a un garage double, puis qui se met de l'eau de Cologne, cheap, qui sent le char neuf. Donc, voilà le personnage.
C'est la comédienne Mélodie Noël-Rousseau qui personnifie Roquebière, un dur au cœur tendre. Rapidement, au fur et à mesure que l'idée de la pièce documentaire prend forme, Mélodie ainsi que la metteuse en scène Geneviève Labelle, a.k.a. Hervé Metal, prennent goût à l'art du drag king en dehors d'un cadre strictement de recherche.
Non, c'est ça, mais ça faisait une couple d'années qu'on cherchait, dans le fond, des lieux où il y aurait des drag kings à Montréal parce qu'il n'y en avait pas. Puis, à un moment donné, on a entendu parler d'une soirée qui s'appelle King of Kings. Puis, on est allé voir ça. Puis, c'est Charlie Deville qui avait gagné cette fois-là. Là, ça nous avait donné vraiment envie d'essayer ça. Là.
C'était la naissance de Charlie Deville, qui est un des pionniers à Montréal.
Ouais. Donc, oui, c'est ça. Puis ensuite, ben Roquebière a participé à Drag-moi. Puis, il a gagné. C'est le premier drag king à gagner Drag-moi.
Mm-hmm.
Puis, moi, j'ai participé l'année d'après. Puis, j'ai gagné aussi.
Roquebière, dans le fond, c'est une célébration à explorer son genre, tout l'éventail du genre. Au début, j'étais réticente par rapport au regard de mon entourage, parce que moi, je n'ai à peine d'entrée dans l'univers LGBTQ+.
À une époque où les drag queens font partie intégrante du paysage médiatique